La chronique qui déballe. Une émission pour mieux consommer et protéger votre santé, sans oublier la planète.
Bonjour Strasbourg, bonjour au quartier Spar. Bonjour Strasbourg, bonjour au quartier Spar. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent cet après-midi pour notre nouvel épisode de notre émission radio La Chronique qui déballe. Une émission pour parler santé et environnement au quotidien à travers nos objets de consommation. Comment apprendre à identifier les produits à risque tels que des perturbateurs endocriniens, des allergènes, des pesticides et d'autres micropolluants? Vous êtes dans La Chronique qui déballe, l'émission qui donne la parole aux habitants du quartier Spar. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis l'espace interassociatif La Ruche 35, rue Vauban. Merci de nous accueillir. Pour ce quatrième épisode, nous allons centrer notre émission sur les substances dangereuses cachées dans nos produits ménagers. Alors, ces produits ménagers pas chers et non toxiques, est-ce que c'est possible d'en avoir? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maxi Poyès, ingénieur à la ville, à la direction service eau et assainissement de la ville de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons également Pierre-Jean Dessèze, administrateur de l'association locale UFC Que Choisir du Barin.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Nous avons avec nous Sylvie Héréto, éco-infirmière et formatrice sur le projet FE, APA.
Bonjour.
APPA, on m'a dit en début d'émission. Nous avons bonjour. Également de la même association Cécile Cadou, chargée de projet qualité de l'air.
Bonjour.
Et pour finir, nous avons avec nous Marie Pignon, qui coordonne les projets chez Face Alsace.
Bonjour.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
Quand on parle pollution de l'air, on entend souvent pollution intérieure, une pollution qu'on retrouve principalement en ville. Mais il faut savoir que l'air intérieur est pollué de la même manière, parfois même plus contaminé que celui de l'extérieur, à cause d'une mauvaise aération par exemple. L'utilisation de produits d'entretien chimique est en grande cause due à la pollution, mais de quelle manière mes produits ménagers peuvent être nocifs pour ma santé et pour l'environnement? Pour le comprendre, les défricheurs sont partis à la rencontre des habitants du quartier Spar pour recueillir leur avis sur la question. Écoutons-les. Pensez-vous que notre air intérieur est pollué et de quelle manière?
Beaucoup de poussière, beaucoup de résidus.
Ça va aussi être pour le coup les travaux qu'il y a dans le quartier, je pense. Puis c'est tout ce que je vois honnêtement pour l'intérieur.
On dit que l'air de la maison est plus pollué que l'air extérieur.
Je fais pas forcément assez le ménage, donc je pense qu'il y a forcément des particules.
Oh ben, les poussières, surtout des voitures, ouais, je pense qu'il est pollué. Voilà.
Quel type de produits ménagers utilisez-vous au quotidien et pourquoi?
Alcool à brûler, eau de javel, produits nettoyants ménagers. Je prends des produits simples, voilà. Le moins traité possible.
Il y a plein de choix, par contre, bio, je n'ai pas fait attention, parce que peut-être que ce n'est pas de mes yeux. Ouais.
Oui, il vaut mieux prendre du vinaigre blanc, oui.
Aucune idée, genre clairement.
Alors, sans être écolo au dernier degré, j'utilise beaucoup des produits que je fabrique moi-même. Mais depuis toujours, hein, pas parce que c'est la mode, de l'alcool à brûler, enfin de l'alcool ménager plutôt, hein. Du vinaigre blanc, beaucoup de vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. C'est une question d'habitude, je l'ai quasiment toujours fait et c'est efficace. Pour les produits à vitre, j'en achète plus du tout parce que d'abord, ça me fait tousser, comme j'ai tendance à l'allergie, alors que l'alcool et le vinaigre blanc, ça fonctionne super bien.
Liquide vaisselle, Sif, Ajax pour les vitres. Et produits à poussière?
Ouais, du produit vaisselle, et c'est tout, je crois. Ouais, ouais. Mais celui que je prends, il est éco-responsable, soi-disant, je sais pas, mais en tout cas, il est assez épuré, hein. Il n'y a pas de colorant, machin, tout ça, quoi.
Ces produits ménagers sont-ils dangereux pour la santé et l'environnement?
Certains, oui, mais bon, n'étant pas scientifique, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Après, je pense qu'on essaie quand même de faire beaucoup d'efforts pour vendre des produits de moins en moins toxiques.
Ça peut amener à des maladies, je pense. Faire de l'eczéma des fois. On a souvent des allergies aussi.
Il faut savoir comment les utiliser et comment aérer justement cette pièce-là. Avec,
Ça dépend de quel produit il s'agit. Effectivement, où il y a un rajout, surtout les aérosols, hein, en fait, où il y a un rajout permanent de substances et autres. Quoi. Donc, ça, oui, effectivement. Ou alors, c'est que pour l'anticalcaire, par exemple, j'avais acheté une fois, parce que j'avais vraiment de gros problèmes et j'avais plus envie de frotter avec mon vinaigre, j'avais acheté du Cinibang. Et ça m'a fait tousser, mais horriblement. Hein. Et j'ai dû aérer ma salle de bain. Bon, j'en avais peut-être trop mise. Mais quand même, j'ai senti la différence. Quoi.
Peut-être sur les poumons. Parce que l'inhalation de produits toxiques, de toutes les façons, a des conséquences dramatiques sur les poumons.
Je pense qu'il y en a, mais je regarde vraiment pas trop les compositions. Bah, il devait y avoir quand même des composants chimiques pour que ce soit efficace pour laver. Et après, je pense qu'il y a quand même des alternatives plus bio, mais je regarde pas forcément quand j'achète.
Je sais pas, il y a beaucoup d'acide dedans, non ? C'est ça, ouais.
Ce micro-trottoir nous permet donc d'avoir une première idée sur l'impact des produits qu'on utilise chez soi sur la qualité de l'air. On constate donc qu'il est naturel d'utiliser des produits ménagers achetés en commerce et que peu de personnes n'est vraiment conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur santé. Cela est d'autant plus dangereux que nous passons en moyenne 80% de notre temps en intérieur selon une étude effectuée par l'ADEME, Agence de la Transition écologique. Mais alors qu'en pensent nos experts ? J'ai vu beaucoup Madame Aigretto acquiescer à certaines paroles, froncer le nez à d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Aigretto ?
Ah, mais je suis agréablement surprise d'entendre ces personnes parler de beaucoup de vinaigre blanc, de produits éco-responsables et de mettre en avant justement l'impact sur leur santé. Il y en a plusieurs qui en ont parlé, notamment celle qui a dit « J'en avais marre de frotter avec mon vinaigre blanc, j'ai acheté le Cilibang ». Pour pas le nommer, hein, c'est pas bien de faire de la pub. Et elle dit, après, j'ai toussé beaucoup. Alors elle dit, j'ai peut-être pas assez aéré. Mais bon, déjà, tout le monde n'a pas une salle de bain, parce que c'était
avec
pour
fenêtre.
Sa salle de bain avec fenêtre. Vous voyez, mais vraiment, là, dans tout ce que j'ai pu voir, et entendre, du coup, c'est plutôt rassurant, je trouve. Là, c'est un tout petit panel,
totalement.
Mais ça n'empêche, c'est assez rassurant, oui. Oui.
Et vous, Monsieur Dessèze, vous pouvez faire un constat de ce micro-trottoir ?
J'irais un peu dans le même sens, parce que je trouve que la majorité des témoignages étaient plutôt compétents, alors que quand on regarde les enquêtes nationales, notamment celle de YouGov en 2021, qui reconnaît que la très grande majorité des Français ignorent, par exemple, la composition des lessives, alors qu'il y a quand même un certain nombre de substances problématiques dedans.
Monsieur Pamès, en parlant d'études, vous me parliez que la ville de Strasbourg en avait fait une, s'il me semble.
Oui, tout à fait. Il y a quelques années, dans le cadre d'un projet justement de réduction des micropolluants à l'échelle territoriale, on a été vers le grand public pour faire une étude sociologique. Et il y a plusieurs points qui ressortent d'ailleurs dans les interviews, de manière très positive, qui venaient. C'était par exemple, quand on pense à tous les produits chimiques qu'on a à la maison, on peut tous travailler pour les changer. En fait, les produits ménagers sont ceux qui sont perçus comme étant le plus facilement changeables. Et là, on l'a entendu, il y en a quand même beaucoup, comme ça a été dit, qui ont déjà fait le pas, de manière écolo ou pas, d'ailleurs, on l'a dit. Il n'y a pas forcément aussi l'aspect économique qui a été cité, mais on pourra en reparler par la suite. Mm-hmm. Et voilà, et on a vu aussi que là, il y avait beaucoup de gens qui avaient visiblement en tête un nombre assez limité de produits ménagers chez eux, alors qu'on sait aussi, des études ont montré que la quantité et le nombre de produits qu'on a en général chez soi, ça peut largement dépasser une dizaine, puisque la société de consommation de manière générale, avec l'aspect marketing, etc., nous dit il faut acheter ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, alors que la conclusion elle a déjà été donnée tout à l'heure, hein, avec bicarbonate, savon noir, vinaigre, etc., on peut déjà faire l'extrême majorité du ménage qu'on a à faire à la maison.
Et totalement, c'est une des questions que je poserai plus tard. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces produits à outrance dans nos placards ? Nous allons donc essayer de comprendre tout au long de cette émission quelles substances nocives se trouvent dans nos produits d'entretien et comment les éviter.
La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement.
Nous en parlions entre liquide vaisselle, nettoyant pour vide, déboucheur de canalisation, lingettes désinfectantes et blocs WC, on multiplie les produits utilisés dans son air et dans son intérieur. L'ADEME constate donc en 2021, suite à une de leurs nombreuses études, que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que celui de l'extérieur. Cela est principalement dû aux 900 substances chimiques différentes qui se cachent dans nos produits nettoyants. Face à ce constat, différentes associations mettent en place des actions de sensibilisation pour réduire cette diffusion excessive de micropolluants. L'une d'entre elles se nomme l'APPA, une association pour prévention de la pollution atmosphérique créée en 1958 que nous accueillons aujourd'hui. Nous recevons donc Sylvie Aigretto, éco-infirmière et formatrice sur le projet FAIT, et Cécile Cadou, chargée de projet qualité de l'air. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel impact peuvent avoir ces produits nettoyants sur mon corps ?
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs impacts qui peuvent être produits sur notre corps et notre santé. Et en fait, ces impacts, on peut les repérer grâce aux pictogrammes qui sont sur les emballages de ces fameux produits. Donc pour expliquer ça, effectivement, malheureusement, parce que là, on va vers des choses qui sont pas très agréables, effectivement, ces produits peuvent très bien ronger la peau et ou les yeux en cas de contact ou de projection. Donc là, on peut parler de l'eau de Javel concentrée, de l'ammoniac, des déboucheurs de canalisation, les tablettes lave-vaisselle aussi, si malheureusement on les touche. Ces produits aussi, pour certains, alors là, on est peut-être plus sur du bricolage pour certains, mais ça n'empêche, on peut trouver malheureusement ces produits dans notre quotidien aussi. Ils peuvent nuire gravement à la santé, provoquer le cancer, modifier l'ADN, nuire à la fertilité ou au fœtus, puisque là on est dans la partie aussi périnatalité, et puis altérer le fonctionnement de certains organes. Ça peut être bien sûr, comme beaucoup de produits, être mortel en cas d'ingestion, bien entendu. Alors là, on va parler plutôt du white spirit, certains insecticides en prise.
Ce qu'on met en prise également.
Oui. Et certains sprays dits assainissants. Donc certains auront déjà quelques marques en tête. On ne va pas se faire que des copains aujourd'hui, je pense. Et puis aussi, ce qu'on peut trouver, c'est le pictogramme qui présente, c'est altérer la santé. Ça, on le retrouve, c'est le petit point d'exclamation. Mais c'est vrai que si vous buvez un verre de lessive, c'est sûr qu'on ne va pas être très très bien. Donc ça peut empoisonner à forte dose, irriter les yeux et ou les voies respiratoires, puisque là, on est typiquement au niveau sphère ORL, appelle la sphère ORL, avec les poumons, les yeux, la bouche, provoquer donc des allergies cutanées, on en a parlé tout à l'heure dans le micro-trottoir, des somnolences ou vertiges, là on est sur l'eau de Javel qui peut être diluée, les lessives, produits vaisselle. Et puis, il y a aussi ce pictogramme que tout le monde connaît avec la tête de mort. C'est empoisonner rapidement, même à faible dose, et là on est surtout sur des insecticides. Là, quand on parle surtout à domicile, donc on va retrouver, et là, on est aussi sur plutôt du produit de bricolage.
D'accord.
Et de façon la plus générale, j'allais dire, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et ça a été dit sur le micro-trottoir aussi de mémoire, par rapport au parfum. Pensez bien qu'un parfum est de base potentiellement allergisant. Voilà.
Donc le spray pour les toilettes, par exemple ?
Je crois qu'on reviendra sur le sujet du spray ou pas spray,
exact.
Mais effectivement, on en est là. Voilà.
Et donc, on a parlé de toutes ces sources de pollution. On retrouve donc les parfums d'ambiance, le mobilier, les appareils à combustion. Mais quelle place détiennent les produits ménagers dans cette pollution ?
Alors, j'allais dire, tout dépend en fait de la fréquence à laquelle les personnes vont faire le ménage. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude qui a été faite et qui a montré que c'est les familles où on utilisait. Alors, ça a été fait chez des bébés de 3-4 mois et on a regardé à l'âge de 3 ans ce qui s'était passé. Il y avait une consommation. En moyenne, c'était sur 26 produits ménagers. Et on a regardé ce qui s'est passé et on a pu effectivement remarquer qu'il y avait plus d'effets. Donc, on va retrouver des allergies, des développements de pathologies respiratoires, hein, pour être général. Mm-hmm. Effectivement, chez les enfants de 3 ans ou dans les familles, il y avait plus de consommation, effectivement, de produits ménagers. Donc, effectivement, ça va bien aller de pair sur plus j'utilise de produits ménagers et plus il y aura de risques de façon globale, hein, respiratoire, allergique, voilà.
Et est-ce qu'il y a une dose de prescrite qui peut, à partir d'une certaine dose, ça peut affecter mon appareil respiratoire ?
Alors c'est très difficile, hein, de dire à partir de telle dose je vais être nuisible, hein, surtout sur des populations dites vulnérables, hein, on pense notamment à la femme enceinte, aux jeunes enfants, j'allais dire cette période dite des 1000 jours, hein, on reviendra peut-être un petit peu dessus tout à l'heure, les personnes asthmatiques, hein, où là effectivement les conséquences même à faible dose peuvent être importantes. Alors je fais juste une petite aparté concernant les perturbateurs endocriniens que l'on peut retrouver dans ces produits ménagers. Et là, en fait, la dose ne fait pas le poison. Puisqu'on sait que quand on prend un médicament, on vous dit « dépassez pas la dose parce qu'après, c'est pas bon ». Là, sur les perturbateurs endocriniens, on ne peut pas dire aujourd'hui à telle dose, tel perturbateur endocrinien est néfaste pour telle chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir des microdoses de perturbateurs endocriniens qui vont donner des effets très importants. Voilà, hein, ce qu'on appelle un effet non monotone, pour être encore plus précise, pour les gens un peu avertis dans la partie. Voilà.
Eh bien, nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions sur cette thématique. Nous avons d'ailleurs une question d'une participante au micro-trottoir. Écoutons-la.
Je lui demanderai de me donner des conseils pour utiliser des produits de la façon la plus intelligente possible, pour que ce soit le moins toxique possible pour le consommateur.
Donc on a parlé de tout ce qui peut impacter la santé, mais comment on peut prévenir tout ça ?
Bah, j'allais dire déjà, il y a une personne avant qui en a... Il n'y en a qu'une, je crois qu'il en a parlé, d'aéré. Donc déjà, de toute façon, de base, quand on fait son ménage, on aère. Donc vous allez fortement limiter, effectivement, quand on va utiliser un produit ménager, quand on va faire simplement, même quand on dit « je fais les poussières », le fait d'aérer, hein, et même, j'allais dire, donc là, c'est merci Covid, hein, puisque du coup, il y a des gens qui ont appris qu'ils avaient des fenêtres qui pouvaient s'ouvrir.
Ils ont pris des
réflexes. Deux fois 10 minutes par jour. Bon, ceci dit, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de réflexes qui se sont perdus depuis notre fameuse période de Covid, mais vraiment la base, hein, c'est l'aération. Alors après, peut-être que ça sera un petit sujet là-dessus sur les différents moyens, comment techniques d'aération. Parce qu'en plein hiver, pour certains, ça peut être difficile d'aérer, puisque la recommandation, c'est 2 fois 10 minutes par jour. S'il fait moins 10, moins 15 dehors, bon, même sans faire moins 10, moins 15, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'ouvrir aussi longtemps. Et on sait qu'avec un petit courant d'air, qu'on peut répéter plusieurs fois dans la journée, on peut avoir exactement le même effet et vraiment pouvoir se débarrasser de nos polluants donc intérieurs via les produits ménagers. Mais Océane, vous l'avez signalé tout au début, notre mobilier, nos sols, nos rideaux, nos canapés, tout ça dégage aussi beaucoup de polluants, hein, faut le savoir.
Et donc on en reparle de ces sprays. D'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est ça qui propage les micropolluants. Mais est-ce qu'il y a une différence si j'utilise un spray ou un flacon ?
Alors, c'est sûr qu'au niveau du spray, on va avoir beaucoup plus de pollution de possible. On va avoir toute la pollution liée à la respiration. En fait, en utilisant le spray, on aura toutes ces gouttelettes en fait, qui seront en suspension dans l'air et qui vont pouvoir provoquer des irritations des voies respiratoires en plus d'un produit classique qui va avoir juste une action cutanée. Donc, c'est vrai que les sprays seront plutôt à déconseiller, plutôt utiliser des produits en bouteille, en flacon. si vraiment on tient à son spray, donc il y aurait une bonne méthode, enfin la meilleure disons, méthode de l'utiliser, ce serait pas d'asperger en fait directement la surface, mais plutôt d'asperger le chiffon ou notre lavette microfibre en le mettant du coup au ras de la bouteille. Donc on asperge vraiment le spray au ras de la microfibre pour qu'il y ait le moins possible de gouttelettes dans l'air et pour pouvoir ensuite utiliser notre produit sur les surfaces en question. Donc il faut bien penser en fait que les gouttelettes resteront en suspension dans l'air longtemps et si vous avez après des enfants par exemple qui passent dans la pièce, ils pourront également respirer ces gouttelettes en suspension si on asperge directement.
Le lien est parfait parce que parmi toutes les choses que vous pouvez faire dans votre association, vous travaillez sur un projet qui s'appelle le projet FEE, Femmes, Enceintes, Environnement et Santé, un projet de prévention aux polluants dans le quotidien. En quoi est-ce encore plus important pour une maman ou une future maman de faire attention à ce sujet ?
Oui, alors déjà, juste un tout petit mot sur ce projet FEE. Donc la PPA, comme Océane l'a signalé, c'est une association nationale qui a été créée en 1958 et reconnue d'utilité publique en 1962. Et donc la PPA, donc Association de Prévention Pollution Atmosphérique, va avoir beaucoup de thématiques par rapport à l'air intérieur, l'air extérieur, avec les établissements recevant du public, les activités sportives, et ainsi de suite. Et au sein de la PPA, il y a donc effectivement le projet FEE, donc Femmes Enceintes Environnement Santé, qui a été créé en 2011 au niveau donc des Hauts-de-France, à côté de juste à Lille, hein, on va dire donc périphérie de Lille. Et cette donc ce projet FEE s'adresse donc, ce sont des formations d'ailleurs qui sont aujourd'hui organisme de formation qui a été certifié Calliope en 2021 si je ne m'abuse. Ces formations s'adressent donc là, tout particulièrement aux professionnels de santé, de la périnatalité. Donc vraiment, ça, c'est très large. Hein. Et plusieurs années, donc depuis 2011, donc aujourd'hui, on a pratiquement couvert la France entière hein, sur toutes les régions. Donc il faut savoir que ces formations sont financées, subventionnées par l'ARS, Santé publique, et on est les conseils régionaux. Hein, bon, là, pour le Grand Est, le conseil régional du Grand Est qui participe aux subventions et au financement de ces formations. Donc nous sommes aussi en partenariat.
Qui protège alors les femmes.
Oui. Et qui protège, donc, bien sûr, femmes et enfants. C'est pour que les professionnels de santé puissent avoir le bon discours auprès donc, de ce public dit vulnérable, qui est donc la femme enceinte et le jeune enfant, vis-à-vis donc des polluants, et là, pour le sujet d'aujourd'hui, de notre air intérieur.
Est-ce que le public a été déjà confronté à des problèmes de santé dus aux micropolluants dans nos produits ménagers ? Est-ce qu'il a des questions, des commentaires ?
Pour avoir été intervenant en tant que kinésithérapeute dans un service avec des bronchiolites, puisque c'était à Strasbourg, à la clinique Saint-Odile à l'époque, qu'a été mise au point les techniques spécifiques de désencombrement des enfants présentant des bronchiolites. Donc mon confrère Pierre Morin et moi-même, nous avons mis au point certaines techniques d'évacuation, ce qu'on appelle l'accélération du flux expiratoire, qu'après on nous a demandé d'enseigner à tous nos confrères dans toute la France, tellement la technique était souveraine et en quelques séances, maximum 3 séances, et loin des 6 que prescrivaient les médecins, on résolvait le problème. Et on a remarqué que bien souvent, ces bébés étaient dans une atmosphère où il y avait l'utilisation de beaucoup de produits d'entretien et présentaient aussi parfois des asthmes. Donc des asthmes allergiques. Maintenant, j'ai une autre réflexion à faire concernant le micro-trottoir et vos interventions. Il y a un produit bien connu de nos grands-mères qu'on n'a pas cité, qui est le bon vieux savon de Marseille. Mais Marseille est sans doute trop loin de Strasbourg pour qu'on en parle. Le bon savon de Marseille, sous forme de copeaux ou autres, c'est un produit d'entretien merveilleux, fait avec de l'huile d'olive de Provence.
Eh ben, on en parlera de tous ces beaux produits miracles que la nature nous a offerts. On a donc compris que les produits ménagers sont dangereux pour notre santé, mais quelles substances sont en cause de cet impact négatif? Pour le savoir, restez avec nous, nous sommes dans la chronique qui déballe.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.
Prendre soin et nettoyer de son chez-soi fait partie des habitudes quotidiennes de tout à chacun. On utilise souvent des produits d'entretien trouvés dans les grandes surfaces qui nous promettent et un environnement propre et sain. Mais est-ce vraiment le cas ? Pour le comprendre, nous avons fait appel à Monsieur Dessèze, administrateur de l'association locale UFC Que Choisir du Bas-Rhin. UFC Que Choisir est d'ailleurs reconnu pour sa revue au Conseil de consommateurs qui déchiffre les étiquettes et les produits de ces substances. Monsieur Dessèze, une habitante du quartier a une question pour vous.
Est-ce qu'on pourrait reconnaître facilement les produits corrosifs en fait, dans un produit ménager ? Pas besoin de devoir lire à chaque fois l'étiquette ou autre chose.
Alors, on l'a déjà un petit peu mentionné avec les pictogrammes juste avant. Mais alors, est-ce qu'on a toujours besoin de regarder les étiquettes, monsieur Dessèze ?
Alors, malheureusement, contrairement aux cosmétiques, la réglementation pour les produits ménagers est quelque peu légère, puisqu'elle n'impose pas aux fabricants de mentionner la totalité des produits utilisés. Alors certes, les principaux doivent l'être, avec le mode d'emploi, etc. Mais un certain nombre peuvent être glissés sous le tapis, en tout cas ne pas être mentionnés, d'une part. Par rapport à ce problème d'étiquetage, qui est quand même assez important, la réglementation n'a proposé que le fait de mentionner le site web du fabricant, quitte à chacun de faire une démarche de recherche parmi la totalité des produits du fabricant. C'est-à-dire quasiment impossible. Et par rapport à ça, une étude récente de l'UFC Que Choisir a mis en évidence que, en moyenne, plus de 40% des produits présentaient encore des substances réellement toxiques. Et je voudrais, par exemple, mentionner, alors ça s'appelle familièrement le formol, mais c'est le formaldéhyde, bien connu pour ses activités biocides, que ce soit dans les produits ménagers, mais aussi dans les produits de bricolage, et qui est encore très, très utilisé. On parlait tout à l'heure de spray et de quelqu'un qui avait un souci avec ses nettoyants vitres. Eh bien oui, l'ammoniac est un produit extrêmement irritant et encore plus quand il est utilisé sous forme de spray. C'est tout à fait vrai. Les acides forts, la soude caustique qu'on utilise pour déboucher les canalisations, c'est aussi grave. Mais de façon plus insidieuse, on peut nommer quelques produits qui pourraient paraître peu dangereux, comme les adoucissants. Mais les adoucissants ont la particularité de rester sur la peau toute la journée, puisqu'on les utilise pour les vêtements, voire plusieurs jours d'affilée, et donc avec un temps de contact très important. On peut aussi mentionner les blocs WC, qui, nuit et jour, produisent des substances dans l'air, sans compter, bien sûr, les bombes dont on a parlé tout à l'heure. Par rapport à cette question des étiquettes, pour l'UFC Que Choisir, c'est une question quand même importante d'information du consommateur. Et pour cela, l'UFC Que Choisir a travaillé dans deux directions. La première, c'est pour soutenir une démarche nationale, voire européenne, qui consiste à promouvoir ce qu'on appellerait le Toxiscore. Le Toxiscore sur le modèle du Nutri-Score, qui est utilisé pour l'alimentation, par exemple.
Ce serait donc un barème, alors ?
De façon très facile, ça permettrait aux consommateurs de repérer, avec un code couleur, du rouge au vert, en passant par des couleurs intermédiaires, de repérer facilement et de façon synthétique l'intérêt ou la nocivité de tel et tel produit. Par exemple, la deuxième action, l'a mené au bout, c'est d'ajouter à son application qui s'appelle Quel produit, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler même plusieurs fois. Quel produit, au jour d'aujourd'hui, peut traiter les problématiques d'alimentation, de cosmétiques, mais aussi aujourd'hui sur les produits ménagers. Alors, peut-être pas de façon exhaustive, parce que c'est un petit peu plus récent. Et puis, les fabricants ont tendance à en trouver de nouveaux très rapidement. Donc, renseigner la base de données, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais cette application qu'elle produit permet, dans un certain nombre de cas, de détecter un certain nombre de substances qui peuvent être nocives. Alors, j'ai fait cet exercice.
Oui, on allait dire, on a ramené des produits ménagers voilà. Expressément pour cette application. Et on va peut-être faire le test alors en
live. Au hasard, ça a été fait. Et donc, sur les 6 produits qui m'ont été proposés, il y en a 2 sur lesquels j'ai pu appliquer cette application. L'un, sans aucune mention particulière, c'est la vaisselle main à l'aloe vera de l'arbre vert. Même si on peut trouver quelques petits inconvénients, comme des allégations marketing hypoallergéniques, qui ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'elles ne sont pas soutenues par des études scientifiques rigoureuses. Mais bon, écologique aussi, mais on ne sait pas trop pourquoi, sachant qu'il n'y a pas de label européen, ni Ecocert, ni voilà. Mais par contre, un deuxième, le Sanitol, désinfectant nettoyant multi-usage, qui voilà, est classé comme produit à utiliser avec précaution et qui mentionne au moins 2 substances qui sont irritantes, dont une très fortement. Et d'ailleurs, l'un des participants dans le public a pu l'essayer il y a à peine une demi-heure avec juste une goutte et qui a ressenti une douleur significative. Alors, je mentionne avec une utilisation sans gants ménagers. Je souligne, parce que ça n'a pas encore été dit, mais peut-être que dès lors qu'on utilise des produits ménagers, il y a quand même une précaution principale à prendre, c'est de porter systématiquement des gants ménagers, je dirais, fabriqués dans ce but-là, donc de résister à un peu tout, voilà.
Parlons donc des labels. Vous avez parlé du label européen. On a aussi des labels EcoCert qui, lui, est un label privé, mais quand même assez sérieux. Vous l'avez dit, sur la plupart des produits ménagers, on a souvent en fait, des logos qui pourraient représenter quelque chose d'éco-responsable, qui est souvent vert, avec un arbre, pour montrer en fait, ces engagements-là. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'on peut faire confiance à tous ces logos ?
Bon, la question porte sa réponse. je suis désolé de devoir insister, mais c'est vrai que ce sont la plupart du temps ce qu'on appelle des allégations marketing qui sont pensées, conçues pour déclencher un réflexe de vente, la plupart du temps. Il y en a une que j'ai retrouvée, tiens, ici, par exemple, sur le nettoyant super dégraissant de Saubermax. En plein milieu, il est marqué « Savon de Marseille », celui que vous mentionnez tout à l'heure. Écoutez, j'ai regardé la composition. À mon avis, on ne la retrouve pas, bien sûr, mais à mon avis, il doit y avoir un parfum au savon de Marseille dans ce produit-là. Voilà, parce que il y a un dessin d'un savon qu'on peut penser savon de Marseille, mais il n'apparaît absolument pas dans la composition du produit. Voilà le type même d'une allégation marketing trompeuse. Voilà. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais sinon, il y en a d'autres. On parlait tout à l'heure de l'arbre vert. Bon, même si c'est une marque connue pour être plutôt de bonne qualité écologique, hypoallergénique, voilà, c'est encore une fois, c'est une allégation au marketing.
Donc on a compris, les substances trouvées dans nos produits ménagers ont un impact important sur notre santé, mais qu'en est-il de l'environnement ? Nous découvrirons cela juste après une courte pause musicale. Vous écoutez Merci Merci Me de Marvin Gaye.
Skies go. Poison is the wind that blows from the north and south. something is means all things and what they used to be lost oil wasted on the oceans and upon our seas fish full of mercury oh mercy mercy means all things and what they used to be radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lies. Oh, mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that?
La chronique qui déballe. Parlons santé et environnement. Vous venez d'écouter Merci Merci Me, un titre de Marvin Gaye. Vous êtes toujours dans la chronique qui déballe, l'émission qui décrypte les micropolluants cachés dans nos objets du quotidien. Nous avons donc compris, les micropolluants sont bien bien cachés et bien dangereux pour la santé dans nos produits de ménage du quotidien. Et il existe de nombreuses substances allergisantes, corrosives ou nocives pour l'environnement qui sont présentes dans la quasi-totalité des produits qu'on utilise. Je me tourne donc vers vous, Monsieur Pommiès, pour comprendre les enjeux environnementaux. En tant qu'ingénieur innovation à la direction services eau et assainissement de la ville de Strasbourg, pouvez-vous nous dire comment sont traités les micropolluants dans nos stations d'épuration ?
Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre, juste rappeler que tout ce qui a été dit là, c'est donc sur l'impact des micropolluants et des produits ménagers sur notre santé, donc directement après utilisation. Mais il y a aussi un impact qu'on voit moins, puisque une fois qu'on a tiré la chasse d'eau ou qu'on a vidé notre lavabo, les eaux usées partent et il peut y avoir un impact sur les stations d'épuration et surtout sur les milieux aquatiques derrière. Justement, nos eaux usées qui sont collectées par le réseau d'assainissement. Alors, juste deux, trois chiffres. Bon, vous retenez ou vous ne retenez pas, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, il y a, en termes de collecteurs d'eau usée publique, 1650 km qui permettent d'amener toutes nos eaux usées. Donc, ce n'est pas rien. Et voilà, il faut aussi les surveiller, les entretenir. Et donc, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent jour et des fois nuit pour que ça se passe bien et qui vont vers trois stations d'épuration, dont une qui est située au nord de l'agglomération qui tête 98% des eaux usées. C'est la cinquième plus grande de France. Donc, on est vraiment dans un outil technique de traitement qui est très avancé et aussi très dur à entretenir, mais qui permet d'avoir une eau traitée de qualité qui peut revenir. Là, c'est le Rhin qui reçoit les eaux usées traitées. Alors, très rapidement, pour expliquer le principe d'une station d'épuration, les eaux arrivent, il y a d'abord des pré-traitements qui permettent d'enlever les éléments les plus grossiers de ce qui arrive, de ce qu'on peut retrouver dans les eaux usées, qui souvent n'est pas censé y être. Et du coup, je rebondis sur le mot qui a été cité tout au début, notamment les lingettes. Donc on en retrouve une quantité astronomique, encore plus depuis les trois dernières années. Et voilà, du coup, tout l'épisode Covid qui a malheureusement contribué à créer, à faire que les gens jettent encore plus de lingettes dans les toilettes. Donc première étape, on enlève le plus grossier, les lingettes, les plus grosses parties. Ensuite, on a une décantation, donc on laisse l'eau au repos et la phase aqueuse flotte et les particules décantent. Et la phase aqueuse passe ensuite dans une partie, une deuxième étape qui est dite biologique. En fait, c'est des grands bassins aérés qui permettent d'élever, on va dire, et de faire se développer des bactéries qui ont la capacité, et c'est tant mieux pour nous, de dégrader la pollution qu'on a dans les eaux usées. Alors, pollution qui est carbonée, azotée, phosphorée, qui est à la base ce qu'on est censé faire dans les toilettes, qui est le plus porteur de la matière organique qui est dégradée. Ces eaux, ensuite, on sépare ces bactéries de l'eau épurée. L'eau épurée est de bonne qualité, peut aller dans le Rhin pour ce qui est le cas de la station d'épuration chez nous. Et les bactéries sont ensuite déshydratées, c'est ce qu'on appelle la boue de station d'épuration. Et sur notre station d'épuration, elle est incinérée pour être valorisée de manière énergétique, donc faire du biogaz qui est réinjecté dans le réseau de biogaz de la ville de l'ES, et récupérer de la chaleur. Dans d'autres endroits en France, et c'est aussi le cas beaucoup, cette boue peut être valorisée de manière agricole, puisque ça contient beaucoup d'azote et de phosphore, et donc ça peut servir d'engrais. Là, j'ai parlé de la pollution normale. Je n'ai pas encore parlé de micropolluants. Et c'est là qu'il y a justement la petite subtilité.
C'était ma prochaine question.
Voilà, c'est que les stations d'épuration en France ne sont pas conçues pour traiter les micropolluants. Alors, pas de panique, heureusement, il y a beaucoup de micropolluants qui sont biodégradables en station d'épuration et qui peuvent être sorbés sur les boues. Et donc, quand c'est incinéré, il n'y a pas de problématique ensuite de d'épandage dans l'environnement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc les micropolluants ne sont encore, les stations ne sont pas dimensionnées pour traiter les micropolluants. Par contre, techniquement, on peut le faire. Il y a des pays qui le font déjà, ou qui en tout cas s'y mettent, équiper les stations, la Suisse, le Bade-Württemberg juste d'autre côté de la frontière, et l'Europe, la réglementation européenne semble se diriger vers une incitation à équiper les stations d'épuration. Après, évidemment, ça voudra dire que ça va coûter plus cher, ça va aussi coûter beaucoup plus d'énergie. Donc, environnementalement parlant, la question peut se poser. Donc, j'ai pas la réponse à la question, mais ça peut se poser. L'autre option, c'est de travailler avec ceux qui émettent des micropolluants sur le territoire pour les accompagner à faire de la réduction à la source. Et donc, parmi les professionnels, que ce soit les industriels ou les artisans, mais aussi nous tous, grand public, on peut essayer de changer nos comportements pour contribuer à cette réduction à l'amont et donc ne pas retrouver les micropolluants en station d'épuration et dans les milieux aquatiques.
Donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il reste encore des traces de micropolluants dans les eaux qui ont été traitées et rejetées dans nos rivières, dans nos océans. Quelle serait alors comment, de façon concrète, ces produits affectent-ils la biodiversité à long terme ?
Alors donc il en reste une partie qui certains des molécules qui proviennent des produits ménagers mais aussi d'autres usages qu'on a nous elles sont réfractaires au traitement parce qu'elles sont très solubles, très peu biodégradables. On a entendu parler dans l'actualité des perfluorés, ce qu'on appelle les polluants éternels, qui se retrouvent dans tout un tas d'usages autour de nous, dans les poêles, etc., qui ont des propriétés anti-adhésives, et qui sont très peu biodégradables et peuvent se retrouver, et malheureusement ça fait déjà longtemps, dans l'environnement et avoir une rémanence très 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 longue. Alors l'approche et l'estimation de la toxicité sur les écosystèmes à court et à moyen terme, en fait, on a des données sur certaines substances. En fait, la quantité de substances qu'on a tout autour de nous, ça va faire peur ce que je veux dire, mais elle est très grande et il n'y a pas des données publiques et publiées sur toutes ces substances. Donc l'impact sur les écosystèmes, on a des fois des bribes d'informations. Quand on sait que c'est perturbateur endocrinien, on sait que là, ça pose vraiment problème, etc., etc. Mais il y a encore beaucoup de trous dans la raquette dans les éléments qu'on a. D'où l'idée d'essayer de, sans attendre d'avoir tous les éléments pour dire « non, cette substance, il faut l'interdire », autant essayer de ne pas l'utiliser. Après, ça dépend évidemment pas que de nous, consommateurs. Il faudrait que ça avance de manière un peu plus rapide au niveau réglementaire et interdiction des substances en amont.
Et une fausse idée est de dire qu'un bon nettoyant est celui qui mousse le plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je joker, parce que moi, je fais mes produits ménagers simples, et quand on utilise des produits très simples, ils ne moussent pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de mousse. Donc si, putain, je réponds, on n'a pas besoin de mousser pour bien nettoyer.
Et donc pour aller plus loin, la plateforme d'information des services cantonaux de l'énergie et de l'environnement, énergie.environnement, a lancé il y a quelques années une campagne qui s'appelle « Doucement la dose ». Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette campagne.
Non, c'est vrai que c'est un axe de travail aussi dans son comportement, c'est déjà de ne pas utiliser tout le produit parce qu'il n'y en a pas besoin, donc utiliser la juste dose, donc déjà réduire les doses. Celle c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'utiliser des produits plus sains. Donc là, notamment, l'outil proposé par l'UFC Que Choisir permet plutôt d'aller vers ces produits plus sains, de faire aussi ces produits soi-même, où là on sait ce qu'on a dans ces produits et sait ce qu'on met sur les éléments autour de nous. Et la dernière bonne pratique en termes de produits aussi chimiques qu'on a à la maison, c'est valable pour les produits ménagers, mais pour les autres produits chimiques, c'est les résidus, de les rapporter en déchetterie qui accepte les déchets chimiques. Et donc de ne pas les déverser dans les toilettes, les éviers ou autres, où là on ne se pose plus la question, mais en fait ça a des impacts.
Est-ce que le public a des questions sur ce sujet? Je vois qu'une main se lève. On donne le micro. On vous écoute.
Merci. Il est évident qu'il y a un problème majeur. Et ça, c'est une question de société dans laquelle on vit. On peut se poser la question avec, par exemple, les médicaments qu'on consomme et la quantité énorme d'hormones qu'on va retrouver dans les déjections. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas ramener au pharmacien ses urines et ses selles. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. Mais ça sera un moyen de pression, peut-être. Mais à voir. Mais on retrouve dans les stations de dépuration, je connais bien le problème aussi et j'y suis sensible, un tas de choses, tous les médicaments qu'on consomme de manière irraisonnée, au lieu d'utiliser ce que la nature nous donne, des choses tellement simples, mais c'est trop simple et surtout ça ne rapporte pas assez. C'est ça, c'est un problème économique qui est à la clé souvent des sources de pollution. Qu'en pensez-vous ?
Ah oui, tout à fait. Mais je pense que... je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, on est vraiment sur l'aspect produits ménagers, les substances qu'a cité M. Dessèze, mais dans tous nos usages qu'on a à la maison, il y a voilà, les résidus de médicaments, il y a plein... Enfin, voilà, des substances qu'on a citées dans les précédentes émissions. Mais je pense que les produits ménagers, c'est déjà, je pense, le moyen, en tout cas, le type de produit qu'on peut changer le plus facilement chez soi. Et c'est le déclencheur, plutôt, de se dire, bon, ben en fait, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je rejette? Et finalement, de se réattribuer le choix des produits qu'on consomme, alors que ce soit pour la santé ou autre. Hein. Enfin, pour la santé, c'est pas forcément, c'est plutôt le médecin qui choisit. Ça, c'est encore autre chose. Mais sur l'automédication, on peut agir soi-même. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ben, je me réattribue le choix et je ne laisse pas la société de consommation choisir à ma place ce que je dois utiliser.
Monsieur Dessèze,
j'ai peut-être un petit complément. On parle de plus en plus de sobriété. On peut aussi réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Depuis tout à l'heure, on parle d'une quantité phénoménale de produits chez soi, dont la plupart sont soit redondants, soit problématiques, alors que peu de produits font le même effet. D'une part, et puis d'autre part, d'un point de vue économique, on achetait moins avec des substances de base moins chères, ça va quand même dans le bon sens.
Et si on finissait avec une petite note positive de trouver toutes les solutions et alternatives à ces produits ménagers toxiques pour la santé et l'environnement?
La chronique qui déballe. Une émission pour mieux consommer et protéger votre santé, sans oublier la planète.
Revenons donc à cette thématique, les micropolluants cachés dans nos produits ménagers qui impactent notre santé et l'environnement. Quelles sont donc les solutions pour réduire les produits à risque dans mon placard et sans me ruiner? Pour découvrir ces alternatives, nous accueillons aujourd'hui l'association Face Alsace qui lutte contre l'exclusion sociale. Bonjour Marie.
Bonjour.
Tout d'abord, écoutons une question qu'on se pose tous.
Pourquoi utiliser des produits nocifs alors qu'on peut fabriquer des choses avec des produits non nocifs?
Alors donc, vous proposez des ateliers pour faire leurs produits nous-mêmes. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça?
Alors oui, beaucoup de personnes, quand ils viennent nous voir pour justement trouver des solutions à d'autres produits que leurs produits achetés en grande surface, c'est la problématique de ça sent bon. Les produits ménagers qu'on achète en grande surface, ça a des odeurs spécifiques. Voilà, la Javel, c'est quelque chose que depuis qu'on est tout petit, on associe à la bonne odeur, alors que en fait, ce qui est propre ne sent pas rien du tout. Donc c'est pour ça que beaucoup des produits ménagers, comme voilà, avec le savon de Marseille ou le vinaigre blanc, quand on va les poser sur les surfaces, ça va rien sentir, mais ça ne veut pas dire que c'est pas propre pour autant. Dans nos différents ateliers, on essaye d'apprendre aux visiteurs à justement l'aspect économique et écologique, et aussi notamment sur la santé, tous les bénéfices de fabriquer ses propres produits ménagers, et notamment au fait qu'on n'a pas besoin d'avoir 40 millions de produits dans ses placards pour pouvoir avoir une maison propre et saine et tout en sécurité pour ses enfants et ses animaux et sa santé à soi-même.
Et donc, tu parles économie et écologie. Est-ce que on peut allier les deux en faisant nos produits nous-mêmes ?
Toujours. C'est vrai qu'on a toujours un peu cette image de l'écologie, c'est fait pour les personnes qui ont insuffisamment d'argent de côté pour pouvoir s'intéresser à la question. Mais il faut savoir que les différents produits qu'on peut trouver sur le marché, comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate, sont des produits qui permettent de fabriquer des quantités suffisantes de produits ménagers, comme par exemple quand nous on propose notre atelier sur les produits ménagers pour le nettoyant multi-usage, pour environ 50 centilitres, on a besoin de voilà, 2 cuillères à soupe de savon noir, 2 cuillères à soupe de une cuillère à soupe de bicarbonate et ensuite de l'eau. Voilà, donc pour tout ça, on arrive à se faire une bonne bouteille de nettoyant et ça suffit largement pour nettoyer toute sa maison.
Et donc Face à Zaz propose des ateliers de création de produits ménagers. Est-ce que moi, toute seule à la maison, je peux me lancer dans cette création sans dosage, sans mélange de substances ou avec toutes les possibilités de recettes sur Internet? Est-ce que c'est possible?
Alors oui, alors bien sûr au niveau des doses, il faut toujours faire bien attention, on ne peut pas mettre plus d'un certain ingrédient que d'autres pour qu'ils soient efficaces. Bien sûr, nous on utilise aussi les guides qui ont été donnés par l'Eurométropole sur comment fabriquer ses propres produits ménagers. Et bien sûr, on essaie de suivre à la lettre ces différents dosages. Mais voilà, comme tous les produits, il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas de trop de lin, parce que voilà, s'il y a trop de savon noir, ça peut figer. Et après, c'est un peu plus difficile à utiliser. Mais sur l'aspect santé, ça n'aura pas beaucoup d'impact.
Et l'un des produits utilisés, surtout depuis le Covid, les plus utilisés, c'est donc la Javel. On en parle depuis le début. Quelle serait la meilleure alternative naturelle? Une solution miracle?
Le vinaigre blanc, c'est ce qu'on conseille majoritairement. La Javel, ça reste quand même un produit qui est extrêmement nocif et qui reste sur les surfaces. On pense notamment voilà, aux enfants qui jouent par terre, qui mettent tous les objets dans leur bouche ou leurs doigts dans les bouches, et ça fait qu'ils ingèrent inconsciemment ces produits, alors que de base, on fait attention à mettre ces produits voilà, dans des étagères élevées pour pas qu'ils y aient accès, mais en fait, ils y ont accès tous les jours, sans s'en rendre compte.
Et une dernière question, si on veut participer à un de tes ateliers, est-ce que tu peux nous donner des dates ou comment les retrouver?
Oui, bien sûr. Alors, je vous invite à aller sur le site de Face Alsace, sur nos ateliers pédagogiques, nos appartements pédagogiques. On en a 4, 2 dans le Haut-Rhin et 2 dans le Bas-Rhin. On accueille tous les groupes de n'importe quel âge, n'importe quelle structure. Et il suffit de prendre une réservation et nos services civiques vous feront l'atelier avec grand plaisir.
Super, merci beaucoup. C'est bientôt l'heure de se quitter, mais avant, voici l'agenda. Le Centre socioculturel Arès d'Esplanade organise une graffitaria le samedi 15 avril de 10h à 15h qui consiste à proposer aux habitants de venir déposer un objet en bon état et d'en prendre un autre, le tout gratuitement aux 10 rues d'Ankara. Demain, 25 mars, le groupe local Alsace Nature Colmar et Environ vous invite à une opération ramassage de déchets. Attention, pensez à ramener vos gants et un gilet fluo. Le point de rendez-vous vous est communiqué lors de votre inscription, alors rendez-vous sur le site internet Sortie pour Nature. Et pour finir, venez jardiner bénévolement le 5 avril à 14h avec l'association Sinbusière au 155 rue Kempf à Strasbourg. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Peut-être que nos invités ont un dernier mot. Madame Cadou.
Alors, on en aurait un, c'est au sujet justement de l'eau de Javel. En fait, l'eau de Javel qui est beaucoup utilisée aujourd'hui pour la désinfection, sauf que la désinfection devrait vraiment être l'exception. Donc, on a vraiment l'expression « le nettoyage, c'est l'usage, la désinfection, c'est l'exception ». On n'a vraiment pas besoin de désinfecter chez soi, le but c'est de nettoyer. Et donc, comme on a pu l'aborder un peu tout le long de l'émission, on pense aérer 2 fois 10 minutes par jour, on limite le nombre de produits, on se tourne plutôt vers des produits multi-usages et vers les produits écolabellisés.
Un autre intervenant, peut-être, Monsieur Dessèze ?
Ça n'a pas été dit, mais je vais quand même le faire. À l'origine de tous ces produits, il y a quand même un fondamental, c'est la paresse naturelle de l'homme. J'aimerais dire qu'il faut peut-être préférer d'abord l'huile de coude, Voilà. Ensuite, pensez sobriété, donc éviter effectivement le surdosage. Éliminer tous, sincèrement, tout ce dont on n'a pas besoin. Les blocs WC, les adoucissants, les lingettes, les désinfectants, on l'a rappelé. S'en tenir au label, si vraiment vous voulez quand même acheter ces produits. Et puis, la fabrication maison, mais après formation. Parce que fabrication maison sans formation, ça peut être aussi un peu dangereux. Et puis la dernière, aider peut-être l'UFC Que Choisir dans sa démarche de promotion du Toxiscore à l'image du Nutriscore.
Pour conclure, voici trois points à retenir qu'on a mentionnés tout au long de l'émission. Il faut faire très attention au logo greenwashing qu'on retrouve partout sur nos produits ménagers. Les perturbateurs endocriniens, la dose ne fait pas le poison. Ça, j'ai beaucoup aimé cette petite expression. Quelle que soit la dose, en fait, ça peut être dangereux, même à toute petite dose. Et pour finir, le vinaigre blanc. Il est revenu à peu près 15 fois dans l'émission. Le vinaigre blanc, la solution à tous nos problèmes. On peut donc remercier tous nos intervenants d'aujourd'hui. Maxime Pommiès, ingénieur innovation à la direction service eau et assainissement de la ville de Strasbourg.
Merci tout le monde.
Pierre-Jean Dessès du magazine UFC Que Choisir dans le Bas-Rhin.
Merci, merci.
Sylvie Aigretto et Cécile Cadou qui travaillent toutes les deux pour l'APPA.
Merci. Merci à vous.
Et pour finir, Marie Pignon qui travaille chez Face Alsace.
Merci.
Merci également aux participants du micro-trottoir, au public d'aujourd'hui, à la Ruche 35 pour leur accueil et à la ville de Strasbourg pour leur soutien. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, le prochain épisode de la chronique qui déballe qui aura lieu le 6 avril à la Maison de la Petite Enfance au Neuhoff. À cette occasion, nous essayerons de répondre à la problématique emballage alimentaire et plastique, quel danger pour notre santé et l'environnement. À tout bientôt et prenez soin de votre santé et de l'environnement.
La chronique qui déballe, un espace pour acquérir les éco-gestes qui font du bien à notre santé et à la planète.